France Inter, le 18-20.
Ça restera comme l'un des feuilletons de l'année. Les épisodes se sont accélérés à l'approche de l'été. Pour beaucoup, il y a eu un gros cliffhanger, comme on dit, le temps de passer le bac, c'est-à-dire une grosse période de très très gros suspense, limite insoutenable, avant de voir ses choix validés. Pour d'autres, ce moment d'angoisse n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il reste encore, au moment où on se parle, 12 398 jeunes gens, exactement, qui n'ont pas trouvé d'affectation, étudiants ou futurs étudiants en tout cas. Parcoursup, quelle affaire ! Un système qui était censé rendre plus juste et mieux faite les entrées dans les études supérieures, éliminer intégralement l'affreux tirage au sort et les approximations, parfois, disaient certains, des APB. Mais au fond, est-ce que Parcoursup, qui sera donc clos la semaine prochaine, aura été plus juste, plus égalitaire, plus facile à manier ? On posera la question, on vous posera la question, vous qui nous écoutez, c'est donc à vous de nous le dire. Vous nous expliquez où vous en êtes, où vous avez atterri, si vous êtes content, si vous avez encore des vœux en suspens. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que vous bloquez le système. On en parle ensemble, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Magali, c'est vous la première, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle pour manifester ma colère par rapport à ce Parcoursup. Nous avons passé, ma fille et moi, un été, surtout ma fille, déplorable, parce qu'elle est suspendue, comme vous venez de le dire, à sa liste d'attente. Elle est deuxième sur une liste d'attente. Et depuis le mi-août, elle ne bouge pas. Ça n'a plus bougé depuis mi-août, alors que tout l'été, elle a été suspendue à cette liste. Elle est passée de la 88e place à la deuxième. Et actuellement, elle n'est toujours pas certaine d'avoir la
Mais
formation.
Donc elle a bougé la liste, pardonnez-moi Magali, oui. Que je comprenne bien. Donc ça a bien bougé en fait au cours de l'été.
Oui. Ah d'accord. Ben oui, ça a bougé. D'accord. Elle est passée de 88 à 2e.
D'accord.
Oui, ça a bougé.
Et du coup, à une semaine de la clôture, qu'est-ce qui se passe pour votre fille ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend encore, elle se dit jusqu'à l'extrême dernière limite.
Voilà, elle attend. Elle est quand même inscrite dans une fac parce qu'elle avait été acceptée, donc elle est inscrite dans cette fac, mais c'est pas son premier choix. Voilà.
Merci Magali, c'est une belle entrée en matière.
C'est très dur pour ces, je voulais signaler, c'est très dur pour ces jeunes. Il leur faut une ténacité à toute épreuve et je leur dis chapeau.
L'angoisse, l'inquiétude, en tout cas des jeunes gens, elle revient souvent dans les questions au 01 45 24 7000 et aux mails qu'on peut recevoir et sur le hashtag Telson également. Pour vous répondre, Magali, pour répondre à tout le monde ce soir autour de la table dans le téléphone sonne, Jérôme Taillard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Lila Lebas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'UNEF et Sonia Bourane est là pour nous expliquer les chiffres que moi-même, dans lesquels moi-même j'ai pataugé une bonne partie de l'après-midi.
Bonsoir.
Spécialiste éducation à France Inter. Je vais commencer avec vous, Jérôme Taillard. Qu'est-ce qu'on dit à Magali ? Parce que, oui, vous la regardez sur le papier, si on veut être purement administratif, elle a un choix, elle ira en fac, donc elle n'est pas perdue. Mais c'est important, quand on démarre les études supérieures, d'aller exactement là où on a envie d'aller. Donc, à deux petites places près, qu'est-ce qu'on dit à Magali et à sa fille ?
Alors, évidemment, le premier élément, c'est que Magali, elle a le choix. Ce qui n'était pas permis auparavant. Avant, on avait une proposition, ce qui a été son cas. Et en fait, si on ne l'acceptait pas, ben, on démissionnait. Et à la fin de la procédure d'APB 2017, ce sont 36% des candidats qui n'ont pas accepté cette proposition, mais qui n'en ont pas d'autres d'alternative. Effectivement, moi j'entends l'angoisse, le stress. Effectivement, on est deuxième. Alors vous l'avez redit, elle a été 90e, elle est deuxième. Effectivement, ça va se libérer là dans les jours, puisqu'on a commencé les processus d'inscription. Et certains candidats, comme chaque année, pour l'accès à l'enseignement supérieur, ne vont pas venir s'inscrire parce qu'ils ont d'autres projets. Et peut-être que la place va se libérer. Mmh. Effectivement, moi j'entends que c'est une attente qui est longue. Mais au moins, elle a eu une proposition d'admission. Elle a déjà été, donc c'est déjà une première chose. Et cette capacité de choix, de pouvoir, effectivement, moi j'entends d'autant plus son attente que ce que l'on souhaite faire, c'est précisément donner le choix pour que chaque étudiant puisse choisir la formation qu'il souhaite. Au plus proche, en fonction évidemment des places disponibles. Moi, je ne sais pas quelles sont les formations sur lesquelles elle est en attente. Peut-être c'est une formation très demandée. Il en existe beaucoup aussi sur Parcoursup. Mais il y a au moins cette capacité de choix. Et j'entends évidemment sa demande. Je pense que ça va se libérer là d'ici le 3, le 5 septembre, la phase principale, comme
pas,
vous l'avez dit, se termine.
Parce que si personne n'a une autre proposition, si le BTS qu'elle a choisi est clos et que personne n'a de proposition ailleurs et contre-restée, ce sera... Lila Lebas, vous allez me parler aussi de... Parce que j'imagine que vous êtes beaucoup le réceptacle d'angoisse de ce genre-là, mais j'aimerais aussi savoir quand même, qu'est-ce qui se serait passé l'année dernière pour la fille de Magali ? Est-ce que ça aurait été vraiment très différent en fait. Est-ce qu'elle aurait eu son BTS l'année dernière plus que cette année?
Ça, on ne peut pas malheureusement le savoir. Tout dépend des choix qu'elle avait fait. L'année dernière, il y avait une hiérarchisation des vœux. Donc, dans quel ordre elle aurait inscrit ses vœux sur APB?
Et alors, attendez, pardon, je me suis trompée, ce n'est pas un BTS, Magali. Excusez-moi, juste pour qu'on dise les choses clairement. C'est quoi, Magali, votre...
C'est une double licence.
C'est une double licence, autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé que c'était un BTS, mais pardon, autant pour moi.
Non, mais donc, dans tous les cas, que ce soit une double licence, un BTS ou autre, on ne sait pas si elle aurait eu son vœu l'année dernière, mais déjà, l'année dernière, pour préciser, ils avaient le choix, les étudiants également, ils pouvaient répondre oui, mais sur APB, donc s'ils avaient une proposition, ils pouvaient dire oui, je la prends, mais j'attends de voir si j'ai quelque chose. Donc le choix de l'étudiant, il existait l'année dernière, il existe malheureusement un peu moins cette année, parce que souvent c'est par dépit, quand on accepte une proposition, comme cette jeune-là qui a accepté une place dans une licence sûrement à l'université.
Mais il y a eu des oui, mais quand même, sur Parcoursup, il y avait des oui, mais on pouvait dire
oui.
Oui,
d'ailleurs, c'est le cas encore de 79 000 jeunes aujourd'hui qui ont accepté une proposition, mais qui espèrent avoir quelque chose d'autre. Et à quelques jours de la rentrée, c'est quand même assez symptomatique, puisqu'on a des jeunes qui, certes, n'ont pas rien, contrairement aux 12 000 que vous avez cités au départ, mais qui, par contre, espèrent avoir une proposition qui correspond réellement à ce qu'ils veulent faire. Et je pense que, encore une fois, quand on vient d'avoir le baccalauréat ou alors qu'on est en réorientation, quand on est jeune, on a le droit de pouvoir avoir accès à la filière de son choix pour pouvoir réaliser son projet d'études et son projet de vie. Et ce n'est pas permis par Parcoursup aujourd'hui. Et c'est notamment les conséquences des tris des dossiers, etc., comme ça a eu lieu avec ce système.
Si vous me permettez une petite précision, double licence, on doit être sur une licence qui est sélective avec double diplôme. Sur les BTS, c'est sélectif aussi. Il n'y a pas une modification des conditions sur les filières sélectives avec Parcoursup, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de dire non. Il y a effectivement une sélection, mais ce que j'entends, c'est aussi que sur le vœu en licence qu'elle a effectué, elle a eu une proposition d'admission qui lui a été faite. C'est bien aussi l'engagement qu'a pris la ministre, que les universités puissent accueillir l'ensemble des jeunes.
Sonia, rapidement.
Mais ça veut dire que certains jeunes risquent de rater la rentrée parce qu'ils attendent, jusqu'à mercredi prochain, et la rentrée, parfois, c'est dès lundi.
Alors, ils ne rateront pas la rentrée, puisque les inscriptions sont en train de se faire partout, sur l'ensemble. Nous avons fixé et nous avons rappelé à l'ensemble des candidats ces limites d'inscription pour qu'ils puissent valider leur dossier. C'est ce qui permet aussi, parce que certains ne viennent pas s'inscrire, ils ont un autre projet, études à l'étranger, un accès à l'emploi ou des formations hors de Parcoursup, et ils peuvent libérer des places. Mais à partir du 5 septembre, c'est-à-dire dans le courant de la semaine prochaine, on aura la fin des listes d'attente, donc il n'y a plus de vœux en attente, et on le voit parce que beaucoup de candidats qui sont ceux qui gardent un vœu en attente, ce sont peut-être sur des filières très sélectives, des CPGE notamment, je pense à Paris. Ce n'est pas nécessairement le cas de l'ensemble des filières.
Mais du coup, qu'est-ce que vous leur dites là? Vous leur dites à ceux qui ont déjà un choix, vous leur dites éliminez les autres, faites un appel d'air, c'est ça que vous leur dites ou pas? Est-ce qu'il manque d'appel d'air? Parce que ce qu'on s'est dit à un moment, c'est bien pour ça d'ailleurs que moi je me suis emmêlée de l'impression dans les chiffres dans l'après-midi. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où les filières sélectives étaient fermées, tous ceux qui avaient pas tous les autres choix des gens admis dans les filières sélective allait s'ouvrir et que ça allait être un flux qui pouvait absorber tout le monde. Vraisemblablement, non.
Je veux le redire, quand on garde un vœu en attente, on ne bloque pas une place, puisqu'on a une place d'acceptation, et c'est précisément le cas qui nous a été décrit. Si quand on est en attente, eh bien, si on se retire de son vœu en attente, finalement, le suivant, il descend d'un cran, mais on ne bloque pas une place.
Non, mais elle le bloque dans l'autre endroit où elle est inscrite.
Non, elle a accepté une proposition, et donc, si elle va s'inscrire, et je ne sais pas quelle est la date limite d'inscription pour sa formation, si elle va s'inscrire, elle sera inscrite.
Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, monsieur Théard, c'est que imaginez que dans l'autre inscription de la fille de Magali, il y a quelqu'un qui attend, qui est en liste d'attente, et qui attend que Magali s'en aille, mais Magali, elle, attend sa double licence.
On est quasiment
à
9 sur 10 qui ont validé définitivement et qui sont en train de s'inscrire. Mmh. Donc il ne faut pas non plus renverser les proportions. Mmh. Aujourd'hui, l'essentiel des candidats, ils ont eu leur proposition de manière définitive et ils vont s'inscrire, ils savent où ils vont à la rentrée.
On va reprendre un autre exemple, Lilia Lebas. J'ai bien vu que vous vouliez la parole, mais je pense que vous allez pouvoir répondre à Claude aussi. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je suis un grand-père.
D'accord, c'est pas grave.
Avec une petite fille qui n'a choisi que des filières sélectives.
D'accord.
Et depuis début août, elle est première en liste d'attente à Quimper. Elle a appelé le lycée ce matin. Ils lui ont dit les dossiers sont bouclés.
D'accord.
Alors, ma question, qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Mais qu'est-ce qu'elle a d'autre? Est-ce qu'elle a, fait d'autres choix?
Ailleurs, elle est 8e, 9e, loin, quoi.
Alors, Jérôme Théillard, c'est pour vous, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait des demandes sélectives, la petite fille de Claude, et en même temps, elles étaient visiblement pertinentes puisqu'elle est tout près. Donc, c'est pas comme si elle était à côté de la plaque dans son dossier. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Ce que l'on a proposé aux jeunes qui n'avaient pas de proposition d'admission, toujours en attente, c'est d'être accompagnés par les commissions rectorales. Dans chacune des académies, des commissions sont mises en place pour aider la fille, comme la fille de Claude, précisément, peut-être parfois en ayant un regard différent sur les opportunités qui sont offertes dans la phase complémentaire, en ayant aussi une réflexion sur son choix d'orientation. On a des jeunes qui, beaucoup dans ces commissions qu'on accompagne, vous avez évoqué les 6 000 lycéens, aujourd'hui quasiment, qui demandent un accompagnement. Ce sont des jeunes qui parfois ont fait des vœux dans des filières très demandées, sélectives.
C'est les fameux 6 609 au milieu des 12 000 qui attendent.
Ces candidats-là, on les accompagne et il y a besoin de cet accompagnement à la fois parce que une formation peut être dans un autre territoire et on a des aides à la mobilité pour les accompagner, puis aussi parfois pour une vraie réflexion sur leur projet d'orientation.
Lila Lebas, sur ces aides-là, quand on est perdu, parce que comme la petite fille de Claude, effectivement, on n'a rien en fait, et la rentrée c'est maintenant.
C'est maintenant, c'est effectivement dans quelques jours, dans beaucoup d'universités, de BTS ou autres, c'est dès lundi, donc effectivement c'est particulièrement stressant. Il y a aussi comme conseil à donner, un dernier recours, c'est la procédure complémentaire où il y a des places qui sont données, enfin en tout cas c'est des places qui sont mises en avant quand elles sont disponibles dans des endroits. Par contre, attention, si on a été refusé quelque part, on ne peut pas repostuler alors qu'il reste des places en procédure complémentaire.
Il y a beaucoup de questions là-dessus, il va falloir nous expliquer pourquoi.
Parce que du coup, on a, encore une fois, on ne peut pas segmenter à chaque fois les chiffres en disant il y en a 12 000 en attente, 6 000 c'est uniquement des lycéens, c'est des jeunes aussi en réorientation qui cherchent des places, et ça je pense que c'est quand même particulièrement important. Et donc du coup, et des fois, il reste des places. Et si on a été refusé, on ne peut pas forcément postuler. Et ça continue aussi à faire monter l'anxiété et l'incompréhension au niveau des jeunes, des étudiants, des lycéens qui cherchent une place.
Je crois que l'objectif, c'est vraiment que les jeunes y soient accompagnés. Auparavant, avec APB, il n'existait aucun accompagnement. Donc ces jeunes, ils étaient silencieux. On les voyait à la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, depuis le mois de mai, on a mis en place un accompagnement. Cet accompagnement, il vise précisément à éclairer les jeunes, à les guider quand ils doivent aller sur la phase complémentaire. Vous l'avez dit, il y a des places de disponibles pour qu'ils fassent le meilleur choix et parfois pour qu'ils modifient leur orientation, mais ça ne change pas leur projet d'études.
Sonia, il faut qu'on explique la phase complémentaire. C'est en gros une filière qui n'est pas complètement complète.
Et qui propose donc des places vacantes.
Propose des places, mais si on a déjà été refoulé dans cette même filière, on n'a pas le droit de rentrer par la fenêtre, en gros.
Dans l'établissement où on avait candidaté, sur un autre établissement de cette formation. Il faut le dire parce que c'est important. C'est-à-dire, une fois qu'une commission des enseignants d'une formation ont dit qu'on ne pouvait pas être accepté, on ne redemande pas au même endroit. Mais dans d'autres établissements, dans la même formation, on peut tout à fait. C'est le sens de l'aide à la mobilité.
Claude, vous êtes encore là ou pas?
Oui.
Est-ce que votre petite fille a fait appel à cet accompagnement déjà? Est-ce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un ou pas?
Bonne question. Je ne sais pas. Et elle est en train de se faire de l'argent de poche en ce moment, donc elle n'est pas disponible.
D'accord.
Nous, on l'encourage en tout cas à s'adresser à ces commissions parce qu'elles sont là pour ça, pour accompagner et pour trouver une solution à la fille de Claude pour la rentrée.
Bah écoutez, si vous qui nous écoutez, vous avez déjà commencé cette forme d'accompagnement, ça nous intéresse en fait de savoir comment ça se passe et où ça vous emmène exactement. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, soyez le bienvenu.
Voilà, alors donc moi ma fille elle a fait un bac STL de sciences et techniques de laboratoire l'année dernière, elle a eu son bac l'année dernière. Donc elle avait APB, elle a eu affaire à APB qui, plutôt que de, comme elle avait demandé un BTS, évidemment, ce qui lui paraissait tout à fait normal, elle n'a pas été prise du tout, donc on lui a tout simplement proposé d'aller à la fac. Malheureusement, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas du tout, c'était pas du tout ce qu'elle recherchait, puisqu'elle pouvait, elle n'avait aucune pratique, elle pratiquait absolument pas, c'était une fac où tout simplement il y avait des cours, c'était très général. Et donc elle m'a dit tout de suite, il faut absolument que j'arrête parce que je vais encore perdre, un an, déjà j'ai perdu un an. Il faut absolument que je puisse reprendre, que je reprenne Parcoursup. Et puis donc elle est tombée sur le nouveau Parcoursup de cette année, où elle a redemandé un BTS, que ce soit à Lyon ou à Dijon. Et donc elle n'a pas du tout eu de réponse positive. Et donc maintenant, on lui propose tout simplement de changer de filière complètement, puisqu'il reste des BTS d'électricien ou des BTS qui n'ont aucun rapport avec ce qu'elle a demandé. Et donc aujourd'hui, elle n'a aucune solution, aucune active.
Et qu'est-ce qu'elle va faire, votre fille, Patrice?
Elle m'a dit, tout simplement, je vais essayer de travailler dans l'année et puis de voir, prendre le temps de voir ce qu'elle peut faire pour justement pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Donc la microbiologie, la biologie, c'est ce qu'elle aime. Et donc elle est motivée, elle aime ce qu'elle fait, mais aujourd'hui elle est coincée parce que on lui propose aucune alternative.
Lila Lebas, présidente de l'UNEF. Alors là aussi, on a l'impression qu'on est dans une espèce d'entonnoir. Et en même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable. La fille de Patrice n'a pas été prise. C'est une filière sélective. Et encore une fois, c'était sélectif l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'encore avant et celle d'avant. Et aussi d'ailleurs l'année d'après. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orientation à la base pour quelqu'un comme ça, en fait?
Moi, je pense que surtout, la question, c'est un bac technologique. Du coup, effectivement, les BTS ont toujours, en tout cas depuis longtemps, je ne sais pas depuis quand, mais depuis leur création, ont été sélectifs. Donc, c'est pas le système Parcoursup qui change ça en tant que tel. Par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir, qui a été testé dans quelques académies. Et nous, c'est ce qu'on demande à l'UNEF. C'est en gros le droit à la poursuite d'études dans ces filières-là pour les bacs technologiques qui sont effectivement les grands laissés pour compte des systèmes d'affectation en général, que ce soit l'année dernière APB ou cette année Parcoursup. Et que donc, quand ces bacheliers technologiques demandent une inscription en BTS, qu'ils puissent, sur simple avis du conseil de classe, avoir une admission en priorité dans ces formations et pour qu'ils puissent, encore une fois, continuer ces études-là quand c'est ce qu'ils veulent faire. Qu'ils puissent aussi aller à l'université s'ils souhaitent le faire, puisque, encore une fois, pour nous, c'est l'étudiant, le jeune, qui doit pouvoir choisir son orientation. Mais en tout cas, de pouvoir donner systématiquement un droit à ces jeunes-là qui sont en bac techno d'avoir accès à des BTS sur simple avis du conseil de classe et ne pas passer par les systèmes d'affectation Parcoursup ou autre, puisqu'on voit bien que souvent, ils ne trouvent pas la place et c'est eux qui, à la fin de l'été, se retrouvent sans rien.
Jérôme Théillard ?
Peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est que la vocation des bacs technologiques, c'est plutôt d'aller vers des IUT. Et précisément, avec Parcoursup, ce qu'on a introduit, c'est des critères de priorité pour les bacheliers technologiques pour accéder aux IUT. On a la même chose, et ça rejoint ce que dit Lila Lebas, mais pour les bacheliers professionnels, pour accéder aux sections de techniciens professionnels. Et c'est ça l'ambition, c'est à la fois d'augmenter la capacité pour ces bacheliers qui préparent une filière particulière d'accéder à celle dans laquelle ils réussissent le mieux. Moi, ce que je note, c'est que effectivement, ce qu'on ne pouvait pas, c'est par défaut d'orientation, on va en licence. Ce qu'on souhaite, c'est véritablement éviter l'échec en licence, et c'est précisément cet accompagnement. Moi, ce que je peux dire peut-être à Patrice, pour sa fille, c'est le conseil, là aussi, c'est de se rapprocher de l'académie, parce que on peut faire des propositions sur des filières de formation qui ont des places vacantes et qui sont pertinentes. Je pense qu'il faut avoir ce dialogue-là. Dans les académies, on se mobilise pour avoir ce dialogue. C'est parfois avec un conseiller d'orientation pour réfléchir avec la personne sur son choix professionnel et véritablement ce qu'elle souhaite faire.
Sonia ?
Mais est-ce que le système n'a pas donné la priorité aux néo-bacheliers, c'est-à-dire ceux qui ont eu le bac là en juin?
Le système, il accueille l'ensemble.
En théorie, mais en pratique, est-ce qu'il y a des critères qui font qu'on regarde si l'élève a eu son bac cette année ou l'année d'avant?
Il n'y a pas de critères discriminatoires qui soient de cette nature. Il y a un dossier que remplissent à la fois les lycéens et puis les réorientations. On a donné la possibilité précisément pour ces jeunes en réorientation de pouvoir, en dialogue avec leur université, apporter des éléments dans leur dossier qui montrent leur parcours, comment il s'est fait depuis le baccalauréat. Ils ont la même manière, les notes qu'ils avaient du bac, les notes qu'ils avaient en terminale, qui sont prises en compte aussi dans le regard. Je pense que on regarde d'ailleurs, quand vous regardez sur les 12 000, vous avez 6 000 lycéens. Donc on est à peu près à parité dans ces jeunes que nous accompagnons pour pouvoir trouver une solution. Moi, je crois qu'il faut, c'est surtout le projet de réorientation, vous l'avez évoqué, cette nécessité de bonne réflexion sur son choix. Et ce que l'on souhaite vraiment, parce que ce sont des jeunes qui soient embêtés, qu'ils soient en bachelier professionnel ou bachelier technologique, c'est leur donner un véritable avantage. C'est là ce que fait la loi du 8 mars dernier, un avantage, une priorité pour aller dans les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux.
Lila Lebas, quand vous voyez des cas comme celui-là, il y en aura d'autres hein, d'ailleurs au 01 45 24 7000, est-ce qu'on dit qu'on peut améliorer Parcoursup mais qu'on est sur une voie qui est meilleure que ce qui était APB, ou est-ce que si on vous donnait le choix, vous diriez non, il faut revenir en arrière?
Déjà, nous, le cœur des accords qu'on a avec Parcoursup, c'est notamment sur les filières universitaires, c'est la mise en place du tri des dossiers, l'obligation de faire des lettres de motivation, des CV, des dossiers qui sont triés par...
On sait que les lettres ont été très rarement lues, d'ailleurs.
On ne sait pas, justement, comment ces dossiers ont été triés. C'est pour ça qu'on a fait une saisine, nous, auprès du défenseur des droits, pour pouvoir avoir, justement, la publication de ces algorithmes locaux qui sont utilisés dans les universités, puisqu'on ne sait pas, justement, comment des jeunes qui postulent, du coup, maintenant, en université se retrouvent classés un numéro 1 ou 10 ou 200 pour une filière universitaire. Donc ça, c'est pour nous, c'est le cœur du problème, c'est le côté sélectif dans les filières universitaires de Parcoursup qui est introduit par cette réforme. Ensuite, moi je pense que le cœur du problème, encore une fois, quand on voit, c'est le manque de place dans l'enseignement supérieur et que c'est ça qu'il faut résorber. On aura beau mettre tous les algorithmes qu'on veut en place pour l'accès à l'université, l'accès à l'enseignement supérieur au sens large, si on n'augmente pas massivement les places à l'entrée de l'université, on aura tous les ans des jeunes qui se retrouveront à la porte de l'enseignement supérieur. Et le cas qu'on disait juste avant sur l'orientation, je pense qu'il est symptomatique. On réfléchit surtout à comment on ferme des portes au début plutôt que le droit à l'erreur. Alors que moi, je trouve ça dommage. Si un jeune a très envie de faire ces études-là, ce BTS-là, qu'il puisse y aller, ça se trouve, ça va réussir. Et ça se trouve, il va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il voulait faire et lui donner la possibilité de se réorienter. Et ça qui est compliqué aujourd'hui.
Je crois, il faut redire, des places ont été créées. L'an dernier, quel était le sujet? On entendait à la fois sur médecine, PASSES, sur STAPS. Cette année, vous ne les entendez pas, ces sujets. Parce que précisément, des places ont été créées.
Il y en a quelqu'un qui va nous parler de STAPS dans un instant, vous inquiétez pas.
Moi, je reviens aussi sur le fait que, avec Parcoursup, on a supprimé les vœux qui étaient contraints. Il y avait des vœux en licence qui étaient contraints, qui étaient des choix par défaut.
Mais il y avait une hiérarchie de vœux.
Il y avait une hiérarchie, mais aussi des vœux contraints. Il faut jamais l'oublier, ce qui fait que c'est très difficile pour un jeune qui est au mois de février de demander de classer une hiérarchie sans savoir comment les formations vont lui répondre. Et quand il classe sur des filières sélectives notamment, sans avoir cette réponse-là, et d'alternative. Et c'est ça qu'on a voulu donner, c'est redonner la capacité de choix, pas faire son choix tout seul, un choix accompagné. Il y a un deuxième professeur principal dans les lycées, c'est une véritable évolution positive. Après, il va falloir faire évoluer. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les jeunes ont fait beaucoup plus fortement des vœux sur les BTS, sur les filières courtes, les IUT. Ça fait aussi partie de la réflexion, comment se repositionne ce paysage, la demande des jeunes. Mais pour la première fois, on a la demande vraie, parce qu'il n'y a plus de vœux contraints et de vœux qui vous conduisent à l'échec en licence. On a eu le cas avec la fille de Claude.
Allez, tiens, vous nous parliez de STAPS tout à l'heure. Ben, tant pis pour vous, voici Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Merci de prendre ma question, qui est à la fois un témoignage. J'appelle pour mon fils qui a postulé sur Parcoursup pour intégrer la filière STAPS. Et il se trouve aujourd'hui sur liste d'attente. Voilà.
Il avait deux. Il sait combien il est sur la liste d'attente ou pas? Il sait à quel niveau
dixième,
il est?
Dixième et trentième sur un autre établissement.
D'accord.
Et bon, déjà l'année dernière, il avait postulé à APB pour STAPS, il n'avait pas été repris. Et donc il a sollicité la commission rectorale d'accompagnement. Et aujourd'hui, je m'interroge sur les modalités de cet accompagnement, parce que ce qu'on lui a juste demandé, c'était de savoir s'il voulait toujours maintenir sa demande d'accompagnement. Et on en est là. Voilà. Donc si Parcoursup s'arrête dans 4-5 jours, il commence à vraiment s'inquiéter, quoi. Il va pas faire deux années blanches. Voilà. Et il a vraiment pas un projet professionnel en tête. Il veut faire une licence APA pour être éducateur sportif en milieu spécialisé, pardon. Donc voilà, je vois pas après quel type d'enseignement on peut lui proposer à part STAPS, quoi.
Mais s'il a fait s'il y a eu une période d'accompagnement, dans la période d'accompagnement, on lui a dit quoi, votre fils, en fait? Est-ce qu'on lui a dit persiste?
On lui a juste demandé s'il voulait maintenir sa position à vouloir être accompagné.
D'accord.
Donc il a dit je veux continuer à être accompagné, voilà.
Mais on l'a pas aidé, on l'a pas accompagné. Mais concrètement, on l'a pas vraiment accompagné, en fait.
Du tout.
Et qu'est-ce et donc, et du coup, voilà. donc l'année dernière, il n'a rien fait.
Eh ben l'année dernière, si, on l'avait quand même inscrit après en licence de langue espagnole, mais bon, c'était pas du tout son truc. C'était pour faire quelque chose. Bon, ça lui a pas plu. Et à l'époque, on nous avait dit que il y avait une réorientation qui était possible au mois de janvier, février. Donc il avait repostulé pour intégrer STAPS, ça avait été refusé. Donc là, je pense qu'il cumule un petit peu c'est le parcours du combattant là.
Jérôme Teilhard, et j'entends la tristesse du fils de Jean-François. Il y a un projet professionnel derrière. Enfin, c'est pas juste, le STAPS, ça a l'air sympa parce qu'on fait du sport. Il y a un vrai projet professionnel derrière. Et du coup, effectivement, quand on est aussi précis, en plus, effectivement, c'est compliqué de trouver une espèce de palliatif.
Alors, c'est aussi ça. Quand on est aussi sur des filières de très demandées nationalement, quand on est aussi sur un projet très précis, moi, je crois que il y a la phase complémentaire. Je ne sais pas si Le fils de notre auditeur a eu l'occasion d'aller voir ce qu'il y a comme proposition sur la phase complémentaire. Moi, j'ai vu des propositions de STAPS dans la phase complémentaire. Je ne l'ai pas vu regarder là hier, mais je sais qu'il y a des propositions. L'aide à la mobilité qu'on a créée, elle sert aussi à ça. On a des jeunes qui sont très motivés par un projet, avec une vraie réflexion, et qui n'ont pas franchi le pas aussi d'une mobilité géographique. Ce n'est pas forcément aisé, très clairement.
C'est très compliqué, attendez.
Mais c'est très compliqué, mais après, il y a bien effectivement un choix. Ce que l'on veut, c'est permettre un choix.
La mobilité géographique, attendez, ça veut dire trouver un appart pour le gamin, ça veut dire...
Il y a des places qui, dans les CROUS, ont été réservées. Les CROUS sont à l'intérieur des commissions, et précisément, ont réservé des places dans des résidences pour pouvoir accompagner des jeunes qui sont accompagnés par ces commissions. Moi, je veux bien, on peut toujours progresser, et on est là pour ça. Mais il y a déjà une étape qui est d'offrir une perspective de mobilité quand c'est possible, quand il y a des places disponibles, effectivement, quand on est très motivé par une formation. Après, il y a aussi le travail avec des conseillers d'orientation pour, effectivement, d'ouvrir quelles sont d'autres formations qui permettent aussi de réaliser ce projet professionnel.
Lila Lebras, sur la possibilité de bouger, enfin, y a-t-il une possibilité de bouger? Je vois qu'il y a une question qui va venir sur ces sujets-là. La précipitation, en fait, à trouver un endroit.
C'est pas juste une question de motivation, puisque je sais pas. C'est surtout financière. Si on doit déménager d'un bout à l'autre de la France, il y a une aide à la mobilité, je sais bien, je connais, qui a été créée cette année, mais entre 200 et 1000 euros, malheureusement, si c'est une aide qui va dans le bon sens pour pouvoir aider les étudiants, c'est largement insuffisant quand on voit qu'aujourd'hui, payer un appartement par mois, c'est quand même très cher, les loyers augmentent, et dans les résidences universitaires du CROUS, c'est largement insuffisant aujourd'hui. Il y a à peine 7% au niveau national des étudiants qui y sont logés. Et donc, effectivement, être mobile, oui, mais il faut avoir les moyens aujourd'hui, quand on est jeune, quand on est étudiant, on a un système de bourse qui n'est pas suffisant, je ne sais pas si le jeune est boursier ou non, d'ailleurs.
Attendez, on va poser la question.
Et donc, c'est pas forcément évident de pouvoir se déplacer d'une ville à une autre.
Mais déjà, Jean-François, pardon, puisque vous êtes encore là, on vous a proposé une alternative ailleurs, géographique?
Non, aucunement. C'est justement le sens de ma question, c'est en quoi consiste cet accompagnement, parce qu'on ne nous a rien proposé du tout. Donc
visiblement, Jérôme Taillard, voilà. on est. Je comprends bien qu'on est dans une foule de cas particuliers. C'est à ça que ça sert. Le téléphone sonne, bien entendu, mais c'est plus qu'un cas particulier. C'est un cas d'école, en fait, ce genre de choses.
Ouais,
il va y avoir beaucoup.
Je ne sais pas d'où nous appelle.
Le Saint-Éloi de J.
Jean-François, mais effectivement, l'objectif que l'on a donné, et la ministre l'a redit auprès des recteurs, c'est qu'on puisse prendre le contact. Il a évoqué un contact qui a été fait pour que d'ici la rentrée, on a encore une semaine, il y a beaucoup de candidats qu'on accompagne, et on les accompagne personnellement. Si c'était des jeunes simplement qui pouvaient par eux-mêmes rendre les pas disponibles, aujourd'hui, ils seraient déjà dans des formations. On a besoin sur ces jeunes de les accompagner pour les entendre, pour les écouter, effectivement, et c'est beaucoup de travail pour les académies. Les académies sont très mobilisées pour ça. Moi, je le redis, il faut poursuivre et prolonger. S'il y a eu un contact, ça veut dire qu'on va l'appeler et qu'on va essayer de trouver une solution avec le fils de Jean-François.
En tout cas, Jean-François insistait très lourdement. Lila Lebas, on peut appeler aussi les syndicats étudiants, peut-être dans ces cas-là, quand on est perdu.
Oui, nous, on a une plateforme qui s'appelle SOS Inscription. Et justement, le témoignage qui nous est donné là est assez symptomatique de ce que nous aussi, on reçoit par appel, par message sur les réseaux sociaux, via la boîte mail également, où on a des jeunes qui ont parfois été contactés par justement ces commissions rectorales, mais soit les propositions qu'on leur fait sont complètement en dehors de leur projet d'études, et donc effectivement, ils refusent ces propositions, ils n'ont pas envie d'être dans ces formations-là, soit on ne leur propose rien, on leur dit il faut attendre le 5 septembre. Sauf que le 5 septembre, encore une fois, la rentrée, elle est passée dans beaucoup d'universités, d'établissements, et quand on loupe les premières réunions de pré-rentrée, c'est des obstacles en plus pour l'année qui s'ouvre.
Sonia, vous vouliez intervenir?
Oui, il y a beaucoup aussi de jeunes qui se découragent, on le voit. On voit qu'il faut insister, il faut retourner vers les commissions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou les ressources pour se battre et essayer d'obtenir la formation de leur choix.
Voilà, Jean-François, allez chercher l'accompagnement, allez le chercher avec les dents pour que votre fils puisse avancer. Je voudrais pas que Jérôme Taillard pense qu'il y a que des gens qui lui sautent dessus pendant ce téléphone sonne. Il y a aussi des gens qui ont trouvé finalement que le système n'était pas si mauvais. Et on va en écouter un ou une, je ne sais pas. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
Allez-y Dominique.
Alors, moi je voulais juste apporter un témoignage, j'ai pas de questions. Je comprends complètement que les gens qui n'ont rien là, c'est l'horreur. Et ensuite, je trouve que tout le monde devrait pouvoir s'inscrire en faculté. Voilà, ça, voilà. Par contre, je trouve que Parcoursup, moi j'ai trouvé ça très très bien. Le fait qu'il ne faille pas classer les vœux, que les... Alors,
pourquoi c'est mieux de ne pas classer? Moi je n'ai pas bien compris ça.
Allô?
Pourquoi c'est mieux de pas classer, Dominique? J'ai pas bien compris, moi, ça.
Parce que, en fait, ce que je trouve, c'est que comme ça, les vœux se libèrent au fur et à mesure. Et du coup, il y a une... Bon, je suis dans une position favorable, puisque mon fils, il a eu tous ses vœux, en fait. Enfin, voilà. Mais du coup, ça permet de mûrir la réflexion. Quand le vœu, quand il y a un nouveau vœu qui se libère, on se repose des questions. Et le fait de ne pas classer, bah, par exemple, mon fils, donc, il a eu... beaucoup de vœux en début de Parcoursup, mais le vœu qu'il préférait ne s'est libéré qu'il y a 15 jours, et du coup, il a pu s'inscrire dans le vœu qu'il voulait, en fait. Je trouve que de ne pas classer, ça permet d'avoir des opportunités, de se dire, de se reposer la question, etc. Maintenant, je le répète, j'entends que je suis dans une position favorable, mais je trouve que Parcoursup, ça fonctionne pas si mal, en fait.
Et c'est bien de le dire aussi, Dominique, et on est content pour votre fils, par ailleurs, que ça a évidemment très bien marché. J'imagine qu'il y en a d'autres pour lesquels ça a très bien marché. Ce que je lis, Dominique, dans ce que vous nous avez dit, c'est que vous avez deux enfants, qu'il y en a un qui a vécu APB. Vous avez senti une vraie différence ou pas?
Allô, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question.
Je lis au-dessus de moi, là, sur votre fiche, si je puis dire, Dominique, que vous avez deux enfants et qu'il y en a un qui a vécu APB. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était plus simple
Parcoursup ou finalement? Disons que moi j'ai préféré Parcoursup parce qu'au moment de saisir les vœux, il n'y a pas eu cette angoisse du classement, de se dire ah là là mon Dieu, alors techniquement lequel il vaut mieux faire, d'avoir des stratégies, lequel on met en premier parce que ceci, cela. Non, on a mis les vœux dans l'ordre qui lui venait à l'esprit, il a saisi ses vœux, alors que bon, pour APB, il fallait réfléchir, voilà, il y avait aussi une notion de stratégie quand on mettait les vœux dans APB. Et si on n'avait pas la bonne stratégie, c'était un petit peu plus difficile. Donc je trouve que de ne pas classer, ça libère l'esprit.
Merci beaucoup Dominique. Et on est content d'avoir aussi évidemment un témoignage positif, Jérôme Taillard. Vous voyez que tout ne va pas si mal.
Ils sont quelques autres, ils sont 600 000. Oui, je pense qu'il faut, jamais l'oublier. Non, mais je veux bien qu'on, c'est évidemment, et la préoccupation des académies comme de nous et comme de la ministre, c'est aussi d'être sur ces jeunes, ces 12 000 pour trouver des solutions, mais ils sont 600 000 à avoir trouvé une solution. Et puis, je rebondis, moi, sur cette question de la hiérarchisation des vœux. Oui. C'est vraiment éviter ces stratégies-là. À un moment où les jeunes n'avaient pas d'accompagnement, à un moment où, finalement, c'est le hasard qui les conduit parfois à faire des choix. Et je le redis aussi, avec parfois des choix contraints. Où APB vous offrait une proposition d'admission, mais en fait vous l'acceptiez pas parce que c'était pas du tout quelque chose que vous aviez choisi. Vraiment le souhait avec Parcoursup, c'est renforcer l'accompagnement, renforcer la capacité à avoir le dernier mot et à faire ses choix, et on essaie d'améliorer l'information que l'on donne aux jeunes, aux familles pour choisir, et puis ensuite avoir des licences, avoir des cycles de formation qui permettent de faire réussir tous, et donc en s'adaptant aussi à chaque personnalité.
Sonia, rapidement.
C'est sûrement un bon point de laisser du temps, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de calendrier? Est-ce qu'il ne faudrait pas le raccourcir, puisqu'on voit que là on empiète sur la rentrée et on laisse le temps aux jeunes de choisir, mais à quel prix?
Évidemment, il y aura un bilan qui sera fait de Parcoursup. Il y a des idées vont s'exprimer. On va attendre la fin aussi de la procédure parce qu'il faut véritablement montrer tous les chiffres et comment la procédure a fonctionné. Mais on entend qu'il y a des questions de bilan et puis de préoccupations, qu'elles soient celles des usagers, celles des formations qui s'expriment aussi. C'est un équilibre qui est à trouver. Si c'était si simple, il y a longtemps que ça existerait et que tout le monde l'aurait fait. Mais on le voit, il y avait des vœux en filière sélective, il y avait des rejets sur APB, il y a aussi des refus aujourd'hui. Il y a des éléments de continuité, on doit faire évoluer l'offre de formation. Il y a eu 31 000 places créées cette année pour accompagner la démographie. Et puis, il va falloir aussi adapter, entendre les acteurs pour trouver les solutions qui permettent aussi, dans l'année 2, d'améliorer un dispositif qui déjà fonctionne.
Lilia Lebas, qui voulait intervenir.
Oui, je suis ravie que vous vouliez entendre les acteurs. On a pas mal de propositions à faire, mais juste rapidement, moi, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est toujours les meilleurs bacheliers là, qui ont le temps de pouvoir choisir. Bien sûr. Revanche, ce sont, avec Parcoursup, d'autant plus, ceux qui ont peut-être les moins bons dossiers, parce que l'université a jugé que tel projet professionnel était moins bon, telle note en terminale était moins la bonne, tel baccalauréat. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, alors qu'avant, l'université notamment, parce que c'est différent des filières sélectives qu'ils sont toujours, mais l'université permettait de rebattre les cartes.
Les filières sélectives qui représentent 54% des filières, il faut le dire aussi. Il y a une majorité de filières sélectives dans l'études supérieures en France.
Il n'y a que les licences, on va dire, les cursus universitaires niveau licence, qui aujourd'hui n'étaient pas clairement sélectifs. Le problème, c'est que maintenant, on a instauré ce tri-là des dossiers, et donc les cartes ne sont plus tout à fait rebattues. Et donc, tout simplement, même à l'entrée de la licence, aujourd'hui, c'est les meilleurs bacheliers qui ont le choix, qui ont le dernier mot, comme vous dites. En revanche, les autres, soit ils ont un dernier mot par défaut, parce qu'on approche de la rentrée, donc il faut prendre un vœu. Soit ils n'ont pas du tout le dernier mot parce qu'ils ont un nom. Ils auront un nom le 5 septembre et pas de proposition d'affectation.
Il nous reste peu de temps, on n'a pas eu de prof. Téléphone sonne depuis tout à l'heure, 19h20. Anne est là, bonsoir Anne.
Bonsoir.
On vous écoute Anne, allez-y.
Donc je suis professeure en classe préparatoire à Nantes. C'est une prépa de province et de proximité qui d'habitude réussit bien. L'année dernière, nous avons placé 96,7% de nos étudiants dans une école du top 15, c'est une prépa commerce. Et cette année, nous allons faire une rentrée avec 16 étudiants seulement, alors qu'on a 35 places, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Parcoursup. Et je pense qu'il y a des étudiants qui ont eu peur, qui étaient trop loin dans la liste d'attente, alors que la liste d'attente a avancé, et qui sont désistés, et le rectorat ne nous propose personne d'autre.
Donc vous avez 16 places, vous c'est open bar en fait.
Voilà, moi j'offre des places en classe prépa à Nantes, venez nous voir, on réexamine les dossiers d'ici lundi, pour la rentrée lundi.
Et j'en profite pour vous poser la question, Anne, sur l'examen des dossiers, justement, comment vous avez fait les fameuses lettres de motivation, sincèrement. Alors vous, remarquez, si vous avez eu 16 demandes, vous avez eu le temps de les lire.
Non, même deux fois. On n'a pas eu 16 demandes, on a eu 300 demandes, on a examiné plus de dossiers qu'habituellement.
D'accord.
Et on les a examinés avec plus d'attention que d'habitude, parce qu'on avait plus d'informations, donc ça nous paraissait intéressant. Hein. On a été plus à l'aise, à la limite, pour classer nos demandes. Et on a vraiment l'esprit d'une prépa, une classe prépa un peu familiale, si vous voulez. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de bloquer des étudiants, enfin des candidats qui ont des notes un peu moyennes au bac. Hein.
D'accord. Mais du coup, vous n'avez pas été récupéré des gens que vous n'aviez pas retoqué.
Eh bien, on peut
retoqué.
Pas en dessous de notre liste d'attente. Non, on a retoqué personne. On a classé nos dossiers. On a essayé de jouer le jeu le plus honnêtement possible. Mais malgré tout, si vous voulez, à l'association des profs de prépa HEC, la question est la même pour énormément de classes préparatoires. Hein. Et y compris des prépas qui d'habitude avaient du mal à recruter, qui ont mieux recruté, et des prépas comme nous, on va dire milieu de gamme, qui elles ont mal recruté.
Eh ben, vous laissez tout le monde autour de la table. Ah, c'est quoi, en fait
voilà, c'est quelque chose qui n'est pas su. Et il y a des places dans les filières sélectives. Et je suis sûre qu'il y a des élèves qui sont même éventuellement en région parisienne, non, c'est à 2 heures de Paris, qui n'ont pas de place et que nous, on est prêts à accueillir et regarder leur dossier. La rentrée lundi, ils seront les bienvenus.
Eh ben écoutez, c'est noté, ça se passe à Nantes. Jérôme Teillard, vous savez que dans certaines filières aussi sélectives de celles-ci, les prépas aux écoles de commerce notamment, il y a parfois des trous, là, on pourrait en accueillir 16, 20.
Il y a des places vacantes, la phase complémentaire est précisément faite pour que des candidats puissent identifier les places vacantes et aller sur ces places vacantes.
Bah, visiblement,
il y a parfois
là,
un travail, oui mais... Enfin, il y a des réalités aussi. Ce sont les jeunes qui choisissent. C'est pas moi qui les guide. Ce sont les jeunes qui choisissent. Il y a des évolutions à partir du moment où on a libéré la manière de faire les vœux sans hiérarchie. Il y a des recompositions qui se font. Mais globalement, sur l'ensemble des classes préparatoires, il y a aujourd'hui plus de candidats qui sont admis qu'il y en avait l'an dernier. Donc, on sait que globalement, il y a cette attractivité, elle est maintenue au niveau national. Et puis, il y a des situations. Moi, j'accueille très favorablement l'enthousiasme de notre auditrice pour accueillir des jeunes. Et je pense qu'au niveau de l'Académie de Nantes, on doit aussi travailler dans ce sens.
Mais ces places devraient apparaître dans la phase complémentaire.
Elles apparaissent, les places qui sont vacantes, elles apparaissent dans la phase complémentaire.
Donc elles vont être occupées dans peu de temps.
Eh bien, on l'espère. Moi, je l'espère pour des candidats et puis pour notre auditrice.
Il nous reste exactement 2 minutes, Frédéric. Est-ce que vous pouvez me promettre d'aller très vite? Et on vous écoute. Soyez le bienvenu quand même, pardon.
Allô?
Frédéric, on vous écoute, allez-y.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, moi je vais poser une question un peu plus d'ordre historique, on va dire. J'ai 50 ans, j'ai passé le bac en 84. Et à l'époque, il n'existait pas APB, post-bac. Et chaque élève qui avait le baccalauréat pouvait donc suivre des études supérieures selon son choix. Sans problème. La question que je me pose aujourd'hui, ça crée des problèmes à chaque rentrée, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, comme vous avez dit, il y a à peu près 12 400 élèves qui ne savent toujours pas où ils vont aller, alors que l'État quand même est garant, c'est un État de droit, il est garant à partir du moment qu'on a un baccalauréat, on a le droit d'avoir de suivre des études supérieures selon notre choix.
Et
à partir du moment qu'on est en liste d'attente à une semaine de la rentrée, on va être obligé, il y a des élèves comme mes enfants, qui vont être obligés de suivre des études qu'ils n'ont alors qu'ils n'ont pas du tout choisi.
Merci Frédéric, alors, on a compris où vous nous emmeniez et ce que vous nous disiez, surtout sur la manière dont ça se passait quand vous étiez, vous, à la fac. Est-ce que c'était mieux avant, Lila Lebas, sérieusement?
Je ne sais pas si c'était mieux avant. En tout cas,
moi, j'ai souvenir qu'il fallait courir à la fac. Oui, j'ai à peu près l'âge de ce monsieur, il fallait courir à la fac.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aller déposer son dossier université par université, je ne pense pas qu'il faille revenir à ces systèmes-là. En revanche, effectivement, il y a quelque chose qui a changé cette année. C'est le fait qu'avec le baccalauréat, ce soit le seul diplôme qu'il faille avoir en poche pour avoir accès, notamment à l'université. Et c'est ce qui change dans cette réforme qui a entraîné la mise en place de Parcoursup, puisqu'il y a toute une loi autour de ce dispositif. Et donc, le cœur du problème, il n'est pas juste technique de l'algorithme, il en faut un pour pouvoir affecter les étudiants. Encore une fois, le cœur du problème, il est sur les objectifs qu'on se fixe avec un boom démographique important. Et du coup, il faut des places pour pouvoir accueillir tout le monde.
Et merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vous tous qui nous avez, appelés. Et si vous n'avez pas de place, on a bien compris, allez chercher les accompagnants avec les dents. Vraiment, il vous reste une semaine pour le faire. On vous souhaite bon courage. Portez-vous bien.